Décryptualité, semaine 4. Salut Manu.
Salut Mag.
Salut Luc.
Mag, tu es revenu, incroyable.
Alors, tu me manquais trop, Luc.
C'est ça. Eh bien, écoute, fais-nous le sommaire dans ce cas-là.
Alors, le monde informatique, il faut penser l'open source autrement, par Matt Hazet.
Alors, un sujet intéressant qu'on abordera sûrement, les grands groupes utilisent et utilisent beaucoup de logiciels libres, mais parfois ceux qui fournissent ces logiciels libres, ça les enchante pas. Donc là, il y a des discussions autour de certains logiciels, dont Elastic, qui est un logiciel de serveur, donc vous ne connaissez probablement pas, mais c'est très utilisé chez Amazon. Et Amazon, bah, ils sont pas contents que le fournisseur de ce logiciel ait changé la licence. Elle est plus tout à fait libre, hein, mais en gros, cette licence, le changement, c'était pour essayer de récupérer de l'argent d'Amazon. Parce qu'Amazon l'utilisait sans qu'on le sache, hein, donc la liberté, ils s'en foutent un peu, c'était dans leur serveur. Donc là, ils ont changé les licences. Amazon, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, c'était un logiciel libre, on récupère la dernière version libre, on fait un fork. Et donc, ils ont leur propre version d'Elastic et ils ont les moyens de la maintenir. Donc, et le fournisseur d'origine est un peu embêté, a priori.
Science et avenir, une exposition pour décoder notre monde de code par Arnaud Devillard.
Alors, ça se passe à Paris. Il faudra qu'on aille visiter, mais je ne sais pas si on aura le droit de visiter. C'est Code is Law. Et ça parle justement de l'architecture, des lois et de la manière dont ça nous contrôle. C'est plutôt intéressant, on parle d'algorithmes et d'autres sujets connexes, artistiques.
Voilà, Code is Law était un principe hein, mis en avant par Laurence Lessig, un juriste lié au libre, il y a de ça bien longtemps, et un truc vraiment très visionnaire, hein, ça cesse de se confirmer tout le temps.
ZDNet France, pour lutter contre les épidémies, concevoir du matériel libre par Thierry Noisette.
Alors, c'est pas nouveau aussi comme sujet, parce qu'on en parle beaucoup depuis le début de notre épidémie chérie, dans laquelle on est en plein, et donc oui, innover et innover en libérant l'innovation, faisant du matériel libre par exemple, donc pour des respirateurs, mais il y a plein d'autres choses qui sont dans ce domaine-là. Eh bien c'est bien, ça fait quelque chose d'utile. Je crois même que le gel hydroalcoolique est libre, la formule a été donnée à l'humanité par son créateur. Donc voilà, il y a des bonnes choses qui peuvent nous aider dans ces moments difficiles.
ZDNet France, l'Open Infrastructure Foundation, annonce son premier conseil d'administration par Steven J. Vaughan Nichols.
Donc l'OIF, et c'est une nouvelle fondation qui va s'occuper de logiciels libres autour du cloud, de l'informatique en nuage, donc notamment une brique qui s'appelle OpenStack. C'est de là dont ils viennent, et il y a beaucoup de choses à faire dans ce monde-là. Et les fondations, c'est une des manières d'organiser des entreprises pour qu'elles contribuent ensemble à des financements, à des développements communs. Et tout ça, c'est basé sur des briques libres. Il y a toute une articulation qui est assez intéressante et complexe.
Geekzone, jouer pour pas un rond avec opensourcegameclone.fr par Fastkill.
Alors c'est un petit article, mais c'est important de remonter des articles comme ça qui essayent de montrer qu'il existe des moyens avec le logiciel libre de jouer et qui essayent de centraliser un petit peu des propositions de jeu. Donc allez dessus, j'ai pas fait hein, parce que j'ai pas eu le temps. Mais gameclones.fr, a priori, il doit y avoir des trucs pas mal.
Il y a encore des gens qui vont râler en disant que voilà, les jeux libres, c'est juste des copies de jeux déjà existants.
Ah ben là, c'est un peu le thème. Hein. Donc effectivement, oui, c'est des clones. Mais ça reste parfois des bonnes idées donc à reprendre.
Donc, sujet du jour.
Un sujet compliqué, un sujet en profondeur, un sujet difficile.
Ultra technique. Je sens que ça va être technique.
Non, allez.
Moi, je voulais parler du sens moral des GAFAM notamment, mais pas que, mais en grosse, grande partie de leur sens moral au travers du sujet de la publicité.
Alors là...
Il y a de l'ironie, là, non?
Bah oui, un petit peu. Les GAFAM se font tacler, plus ou moins en fonction des GAFAM et des situations, sur ce que les gens peuvent mettre, hein, avec les fake news, le fait qu'il y ait de la désinformation, parfois organisée par des États.
Le fait qu'il y ait de la censure. Hein.
Le fait qu'il y ait également de la censure. Le fait que ce sont des boîtes américaines qui, bien souvent, diffusent un modèle puritain assez hypocrite, où il ne faut pas montrer le moindre téton, mais où on peut, après, aborder des trucs finalement ultra-sexualisés. Voilà, il y a des tonnes d'affaires comme ça. Où, par exemple, il y a des années de ça, La Voix du Nord, hein, le journal avait fait un dossier sur le cancer du sein et avait été dégagé de Facebook parce qu'on ne montre pas de sein. Tu vois. Donc, voilà.
Un cancer du sein sans sein, ça devient compliqué quand même.
Il faut savoir rester digne, hein, voilà, même dans la maladie, je suppose. Donc voilà. Alors j'ai vu un certain nombre de choses passer ces derniers temps. Alors certaines ne sont pas vérifiées parce que c'est des captures d'écran que je vois passer sur Reddit où je traîne. Donc ce sont des gens que je ne connais pas qui remontent ça, donc potentiellement ça peut être des fakes, mais disons que ça vient de plusieurs personnes qui remontent ça, Voilà, je suis plutôt enclin à les croire, mais il faut garder quand même une précaution là-dessus quand même.
Et donc, ce sont des images qui t'ont un peu embêté, mais pourquoi, je veux dire ?
Eh ben, en fait, c'est des gens qui remontent des publicités qui passent notamment chez Google, que ce soit dans le Play Store, sur YouTube ou des choses comme ça. On sait que Google, particulièrement, s'est distingué en ayant une politique de démonétisation pour essayer de casser les gens qui font des vidéos sur des thèmes qui leur plaisent pas, hein, qui sont immorales en quelque sorte.
Alors, des thèmes, alors les flingues... La drogue, les nazis, le sexe.
Il y a notamment des questions sur les identités sexuelles, hein, y a des choses comme ça. Il y a des trucs politiques également qui sont passés là-dedans.
Il me semble qu'ils démonétisent pas mal aussi tout ce qui parle du Covid. Les youtubeurs qui parlent de Covid, on ne gagne pas d'argent sur le sujet ou peu.
Et alors du coup, ces images, elles ont quoi de choquant ?
Eh ben, c'est que régulièrement sont remontées des publicités, notamment de sites de cul de ce type-là. Bah, j'ai vu une capture d'écran d'une fille qui est effectivement tout habillée, mais qui a sa main dans sa culotte. Avec voilà, une publicité pour un truc de cul, je sais plus quoi. Mais donc du coup, ça fait un peu bizarre de se dire que d'un côté, on a un discours moralisateur et de l'autre côté, quand il s'agit de faire de la pub pour gagner des sous, ben là, les vannes sont ouvertes et il y en a d'autres comme ça.
Alors, le domaine de la pub, c'est un domaine hyper compliqué et c'est le fondement des GAFAM dans une large mesure. Alors, au moins Google, Facebook, ce sont là où ils vont gagner de l'argent parce que derrière... Ils vont utiliser ces données pour les afficher dans différents contextes. Et toutes ces données vont être récupérées, un peu comme d'un or noir. C'est une des manières de le voir. Ouais. Nos données sont réutilisées et sont pompées pour, eux, leur chiffre d'affaires.
Il y en a une qui est très forte aussi, c'est Amazon. Amazon, quand tu fais tes recherches de ce que tu veux acheter, bah, tu as des propositions d'un côté, c'est que de la pub, c'est que des gens qui payent pour être bien placés dans les propositions d'Amazon.
Oui, et Amazon manipule également ce flux-là pour mettre ses propres vendeurs tiers, où c'est pas affiché que c'est les siens. Ils ont été pas mal accusés là-dessus d'être assez malhonnêtes dans ce truc-là. Ils sont partout, hein, et c'est eux qui font leur pub pour le coup. Mais on pourrait dire, au moins, tu vas acheter une perceuse, ils te font des pubs de perceuse. Là, on a des trucs, c'est quelque chose qui a été remonté aujourd'hui sur Reddit, d'une publicité pour un site de rencontre sexuelle. Sauf que la photo qui a été prise pour illustrer ça, c'est une gamine qui danse, qui est en train de faire des souplesses à la barre, et c'est clairement une adolescente prépubère, quoi. Et c'est dans l'environnement Google.
Alors, ce qu'on sait, c'est que ce sont des systèmes hyper compliqués. Moi, j'avais assisté à des conférences qui essayaient de montrer un peu l'écosystème des publicités. Les gars, quand ils doivent afficher une page sur laquelle il y a un petit encart de publicité, ou plusieurs encarts de publicité, eh bien, ils se retrouvent sur la page à devoir faire des appels d'offres, envoyer ça sur des plateformes d'échange de publicité, où ils vont envoyer vos informations, ou en tout cas ce qu'ils savent de vous, et essayer d'obtenir de quelqu'un qu'ils payent pour vous afficher des publicités. Et ce quelqu'un qui va payer, eh bien, c'est celui qui paye le plus. Et il faut qu'il fasse ça dans un temps défini et dans un contexte bien précis. Donc c'est très complexe, il y a beaucoup beaucoup d'acteurs, hein, parce que ces envois, ces appels d'offres, ces demandes de publicité passent par plein d'acteurs différents à plusieurs niveaux, et donc les données des internautes sont diffusées à des acteurs qu'on ne maîtrise pas du tout, ni d'Eve ni d'Adam.
Il y a certains sites qui vous proposent de booster votre publication, vous devez donner votre budget, le temps de durée de votre boost, et puis suivant combien vous payez, qui vous payez, bah, votre publicité sera beaucoup mieux affichée que d'autres, voire... Dans le sens inverse, votre publicité passe après toutes les autres.
Oui, oui, alors c'est une forme d'enchère en temps réel. On en voit, comme tu le disais, c'est un mec de 45 ans qui s'intéresse aux technologies et qui gagne bien sa vie. Qui en veut, et il fait moi. Donc c'est effectivement des infrastructures incroyables. Et ce qui est intéressant, c'est que Google, et notamment au travers de YouTube, quand ils ont commencé à démonétiser les vidéos, c'était suite à des scandales.
Oui, on en a parlé, il me semble, mais peut-être pas assez. Parce que ils se sont rendus compte, parfois, sur certains youtubeurs, il y avait des publicités de grands groupes qui étaient associées avec des contenus un peu choquants. Il pouvait y avoir des contenus d'extrême droite, il pouvait y avoir des contenus d'humour vraiment sales, et à côté, bah, vous aviez une publicité, je sais pas, pour Volkswagen ou pour un grand journal, un New York Post, allez savoir. Et les grands groupes, eh bien, ils n'ont pas été contents, et ils ont fait ce qu'ils savent le mieux faire dans ces cas-là, ils ont... gueuler, et ils ont gueulé tellement fort qu'ils en ont fait un boycott.
Puis ils ont retiré le pognon, ils ont dit « si c'est comme ça, nous on s'en va ».
Exactement, ouais. Donc là, Facebook, Google, c'était eux les plus touchés dans mon souvenir, ils ont laissé passer à un moment donné, ils ont accepté de ne pas afficher les publicités à côté de n'importe quoi.
Donc en gros, ceux qui passaient les publicités pouvaient demander à ne pas passer sur tel ou tel contenu, par contre ceux qui produisaient du contenu ne pouvaient pas dire « ah oui mais non, par exemple, moi, je veux pas de pub de voiture ou pas de pub de cigarette. » C'est vraiment bizarre comme politique.
Effectivement, les gros acteurs, ceux qui payent, les gros acteurs de la publicité, eh bien, c'est eux qui avaient le choix. Alors que ceux qui fournissent une main-d'œuvre sous la forme de contenu, notamment sur YouTube, donc les YouTubeurs, eux, ils n'avaient pas vraiment de choix, si ce n'est que leur vidéo n'était pas monétisée sans qu'ils le sachent forcément.
Et ils en ont d'autant moins qu'il y a eu un moment où Google a dit « on vous démonétise, vous n'aurez plus de pub ». Et maintenant, il y a quelque temps, changé la règle en disant « maintenant, même si vous avez démonétisé, on a le droit de mettre de la pub comme on veut et garder l'argent ». Et donc, du coup, ils ont pris l'option en disant « bon, voilà, on est chez nous, on met de la pub si on veut ». Mais ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que quand les gros, les puissants disent « maintenant, faut arrêter les conneries, on veut pas être associé à des nazis », eh ben, il y a réaction. En revanche, l'inverse, c'est que les personnes qui vont, les particuliers qui se promènent sur ces outils, ou les producteurs de vidéos, eux, n'ont pas le choix. Et ils sont obligés de se taper les trucs avec des sites de rencontres de cul avec des adolescentes.
Bah si, ils ont quand même un choix, c'est de pas apparaître sur ces plateformes-là.
Mais si tu vas sur ton Play Store pour télécharger une application et qu'on t'envoie ce truc-là, t'as pas le choix, tu l'as vu.
Oui, mais t'as le choix de pas aller sur le Play Store, j'en connais qui n'utilisent pas le Play Store.
Je suis pas sur le Play Store et je peux te dire que c'est extrêmement coûteux en termes de trucs pratiques. Il y a plein d'applis que je ne peux pas avoir. Donc c'est un choix que je fais, mais qui me rend pas la vie facile du tout. Donc de fait, aujourd'hui, je renonce à plein de choses pour ne pas avoir le Play Store sur mon téléphone. Donc pour moi, c'est pas une solution. C'est juste un choix merdique que j'ai fait.
Bah, c'est des coûts, des avantages, des inconvénients. Effectivement, c'est plus ou moins difficile de suivre ce que tu veux. Alors, il y a des manières un petit peu plus simples pour beaucoup de publicités. Quand on est consommateur d'Internet, on met un bloqueur de publicité. C'est ce qu'on doit encourager tout le monde à faire.
Oui, mais ça marche pas partout.
Et en plus de ça, on le sait, il y a des manières de contourner tout ça. Les gros, Google, ils ont un navigateur et leur navigateur, ils essayent de limiter l'impact des bloqueurs de publicité.
Après, même si tu es sur le Play Store, tu peux aller choisir des applications en prenant celles où il n'y a pas de pub. Il y a suffisamment de choix, malheureusement, sur le Play Store pour que tu puisses décider des
applis
sans
pub. Il n'y a
pas
des pubs à l'intérieur du Play Store ? Parce que moi, comme je ne l'ai pas, je ne sais pas. Il n'y a pas de pub à l'intérieur du Play Store.
Je ne suis pas sûr. Peut-être qu'ils remontent les applications qui paieraient de l'argent. On ne peut pas savoir parce qu'en fait, Google, ils se sont fait taper sur les doigts parce qu'ils remontaient des choses sans le dire, hein, sans que ce soit clair. Et notamment, ils remontaient leurs propres services dans les résultats de recherche. Ça a choqué, je crois, que, un petit acteur, la Commission européenne. Donc, ils ne sont pas très contents. Donc, on ne maîtrise pas exactement pourquoi ils nous montrent certaines choses. C'est embêtant, hein, clairement.
Voilà. Alors, dans le même registre, il y a eu aussi une affaire, il y a un article de presse sur TikTok, qu'il faudra peut-être qu'on rajoute un moment dans la liste des GAFAM et des réseaux sociaux, même s'ils sont en passe de se faire racheter par un GAFAM existant. C'est un journal américain, un grand quotidien américain, qui a mené l'expérience de créer un compte TikTok avec un profil d'enfant de 14 ans pour voir au bout de combien de temps il y aurait une publicité pour de la chirurgie esthétique. Donc, Magali, combien de temps ?
J'ose pas, j'imagine le pire. Non.
8 minutes.
8 minutes ?
Voilà. Et donc là, effectivement, on n'est pas dans les trucs sexuels, mais on est, on imagine des gamins qui baignent là-dedans, même s'ils ne le font pas. Ça veut dire que dès leur plus jeune âge, ils sont exposés à cette idée que la chirurgie esthétique, c'est normal, et puis que c'est tout à fait banal. Et
effectivement, moi, je joue sur un jeu malheureusement pas libre, et on a des pubs très régulièrement que j'essaye de passer. Et dernièrement, je tombais sur une application où, en gros, on doit aider son personnage principal à devenir beaucoup plus féminine. Donc, on encourage les enfants, puisque c'est un jeu pour enfants, à épiler son personnage, à le maquiller, ainsi de suite. Et là, c'est « Ah, mais c'est pour des enfants, quoi !» Donc, pourquoi il y a cette recherche de l'image ? Et c'est une publicité pour une appli.
Voilà, il faut commencer tôt, l'éducation.
Alors tout ça, on sait que ça va marcher et qu'en prenant les futurs adultes très jeunes, on va commencer à implanter des idées, ça va façonner une société entière. Il n'y a pas de raison, ça devrait fonctionner.
Et c'est le propos des mouvements anti-pub.
À qui on pourrait faire de la pub, justement.
Voilà, mais ça démontre bien que ça n'est jamais gratuit, même si on ne paye pas. D'une part, quand il y a de la publicité, il y a bien des gens qui vont souscrire à des services et que c'est ces souscriptions qui vont payer la pub. Quand on va faire nos courses, on paye la publicité. Et en plus de ça, ça veut dire qu'on donne des moyens à des acteurs de coloniser les imaginaires, d'orienter les gens, et on voit qu'ils n'hésitent pas à s'attaquer, y compris aux plus jeunes.
Donc moi, ce que j'en déduis largement, c'est ceux qui payent, ce sont ceux qui donnent les ordres, et dans ce système-là, ceux qui payent, ce sont les fournisseurs de publicité. Ce sont eux qui choisissent, alors que nous, les citoyens, nous, les consommateurs d'Internet ou les producteurs d'Internet, nous ne sommes que de la ressource. On est éventuellement l'or noir du 21e siècle, dont on parle tant. Les données, les big data, ce sont nous. Nous sommes le terrain dans lequel on va les miner. Ce sont les fournisseurs de publicité qui sont, eux, les vrais payeurs du système.
Exactement, avec nos sous. C'est ça le truc ultime.
Moi, je rêve d'une société sans pub. Est-ce que ça ferait une chute financière, économique, tout ça?
Alors,
tout ça
remettrait peut-être en cause le système Internet. Donc, à voir. Mais moi, je propose qu'on essaye.
Mais moi, je suis pour. Bon allez, pas de pub jusqu'à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Salut.
Salut.